jour 8h. Donc, nous bien connaissons avec nous et nous gagnons un texte, deux, trois chapitres, dans le ventre de l'Atlantique par Fatou Diom. Fatou Diom, c'est une dame, et ils sont françaises, sénégalaises. Ils habitent dans Strasbourg, dans le pays de la France, mais ils ont pu causer sous affaire immigration. Donc, le ventre de l'Atlantique, c'est une dame. C'est tout la grande forme, map capable, probablement, libre nous, chapitre 1, 2, 3. Donc, on va avec vous jusqu'à 8h du soir, et c'est notre deuxième tranche là, nous y avec vous, et un petit musique hein, pour bonne fête ça. C'est trop Ghana, et moi je dis c'est septembre. Hein? Je
me connais en tant que je arrivé, je suis 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 arrivé,
Le ventre de l'Atlantique par Fatou Diom. Fatou Diom, c'est F-A-T-O-U. Et puis Diom, c'est D-I-O-M-E. Donc, nous allons essayer d'entendre Cosmo là. Et puis, pratiquement, n'importe quoi. En français, comme on dit, il court. Tacle, dribble, frappe, tombe, se relève et court encore. Plus vite, mais le vent a tourné. Maintenant, le ballon vise l'entrejambe de Toldo, le goal italien. Oh mon Dieu, faire quelque chose. Je ne crie pas, je vous en supplie. Faites quelque chose si vous êtes le Tout-Puissant. Ah! Voilà Maldini qui revient, ses jambes tricotent de la pelouse. Devant ma télévision, je saute du canapé et allonge un violent coup de pied. Aïe, la table! Je voulais courir avec la balle, aider Maldini à la récupérer, l'escorter, puis permettre de traverser la moitié du terrain afin d'aller la loger au fond des buts adverses. Mais mon coup de pied n'a servi qu'à renverser mon thé refroidi sur la moquette. À cet instant précis, j'imagine les Italiens tendus aussi raides que les fossiles humains de Pompéi. Je ne sais jamais pas pourquoi on serre les fesses quand le ballon s'approche des buts. Maldini, oh oui, très bonne défense de Maldini qui passe à son gardien. Toldo dégage, mais quel talent ce Maldini! Voilà un grand joueur, il est pourtant resté fidèle au Milan AC. Une centaine de sélections dans l'équipe nationale d'Italie. C'est fabuleux, son père César, était lui aussi un très grand footballeur. Décidément, cette famille a du talent. Eh bien, le reporter aurait voulu faire un poème à la gloire de Maldini, mais dans l'urgence du reportage, il ne fit rimer que les points d'exclamation. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'adore le foot. Pas tant que ça alors. Je suis amoureuse de Maldini. Mais non, Je ne suis pas folle à ce point, quand même, en tout cas. Je ne cours pas les vedettes et les étoiles, ne brise pas ma nuque. Ma grand-mère m'a très tôt appris comment cueillir les étoiles. La nuit, il suffit de poser une bassine d'eau au milieu de la cour pour les avoir à ses pieds. Et comme vous pouvez le constater, il suffit d'une petite coupe dans un coin de jardin pour voir 22 étoiles, dont Maldini, tournoyée sur la pelouse, comme dira dans un labyrinthe. Alors, puisque je n'écris pas une lettre d'amour à Maldini, pourquoi je vous raconte tout cela, eh bien, parce que tous les virus ne mènent pas à l'hôpital. Il y en a qui se contentent d'agir en nous comme dans un programme informatique. Et le bug mental, ça existe. Eh bien, le 29 juin 2000, je regarde la Coupe d'Europe de football. L'Italie affronte les Pays-Bas en demi-finale. Mes yeux fixent la télévision, mon cœur contemple d'autres horizons. Là-bas, depuis des siècles, des hommes sont pendus à un bout de terre. L'île de New Dior, accrochés à la gencive de l'Atlantique, tels des résidus de repas. Ils attendent de résilier que la prochaine vague les emporte ou leur laisse la vie sauve. Cette pensée m'envahit chaque fois que, prenant mon sillage à l'envers, ma mémoire distingue le minaret de la mosquée figé dans ses certitudes et les cocotiers qui balancent leur chevelure dans une nonchalante danse païenne dont on ne sait plus la raison. Est-ce une de ces danses de funérailles qui, jadis, consacraient les retrouvailles de nos morts avec nos aïeux? Où c'est le sans cesse répété qui célèbre les mariages après chaque poumasson à la fin de l'hivernage? Ou encore cette troisième sorte de danse que déclenchent les tempêtes et lors de laquelle, dit-on, les cocotiers imitent le mouvement de refus des jeunes filles offertes en mariage à des hommes qu'elles n'aiment pas? La quatrième danse reste la plus mystérieuse, c'est le tango du rêve et chacun s'y emploie à sa manière, au rythme de son souffle. Donc voilà bientôt 10 ans que j'ai quitté l'ombre de cocotier. Heurtant le bitume, mes pieds emprisonnés se souviennent de leur liberté d'antan, de la caresse du sable chaud, de la morsure des coquillages et des quelques piqûres d'épines qui ne faisaient que rappeler la présence de la vie jusqu'aux extrémités oubliées du corps. Les pieds modelés, marqués par la terre africaine, je foule le sol européen. Un pas après l'autre, c'est toujours le même geste effectué par tous les humains sur toute la planète. Pourtant, je sais que ma marche occidentale n'a rien à voir avec celle qui me faisait découvrir les ruelles, les plages, les sentiers et les champs de ma terre natale. Partout, on marche, mais jamais vers le même horizon. En Afrique, je suivais le sillage du destin, fait de hasard et d'un espoir infini. En Europe, je marche dans le long tunnel de la performance qui conduit à des objectifs bien définis. Ici, point de hasard, chaque pas mène vers un résultat escompté. L'espoir se mesure au degré de combativité. Ambiance technicolore, on marche autrement, mais alors vers un destin intériorisé. On se fixe malgré soi, sans jamais s'en rendre compte, car on se trouve enrôlé dans la meute moderne. happé par le rouleau compresseur social prompt à d'écraser tous ceux qui s'avilissent de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, dans le gris ou sous un soleil inattendu, j'avance sous le ciel d'Europe en comptant mes pas et les 10 mètres de rêve franchis. Mais combien de kilomètres de journées de labeur et de nuits d'insomnie me séparent encore d'une hypothétique réussite qui, pourtant, va tellement de soi pour le bien, dès l'instant que je leur ai annoncé mon départ pour la France. J'avance les pas lourds de leurs rêves, la tête remplie des miens. J'avance et je ne connais pas ma destination. J'ignore sur quel mât on hisse le drapeau de la victoire. J'ignore également les grandes eaux capables de laver l'affront de l'échec. Pote, ne dormez pas, c'est ma tête qui bouillonne. Qu'on me passe pas comment, qu'on me passe du bois, ce feu doit se nourrir. L'écriture est ma marmite de sorcière. La nuit, je mijote des rêves trop durs à cuire. Le bruit de la télévision me sort de ma rêverie. Chaque fois que le reporter crie le nom de Maldini, un visage se dessine sur l'écran. À quelques milliers de kilomètres de mon salon, à l'autre bout de la terre, au Sénégal, là-bas, sur cette île à peine assez grande pour héberger un stade, j'imagine un jeune homme rivé devant une télévision de fortune pour suivre le même match que moi. Je descends près de moi, nos yeux se croisent sur le même visage, battements de cœur, souffle, gestes de joie ou de désarroi. Tous nos six émotionnels sont synchronisés la durée d'un match, car nous courons derrière le même homme, Paolo Maldini. Là-bas donc, au bout du monde, je devine un jeune homme trépillant, sur une natte ou un banc archaïque devant une vieille télévision qui, malgré son grésillement, focalise autour d'elle autant de public qu'une salle de cinéma. Généreux, le propriétaire de l'unique télévision du quartier l'installe dans sa cour où tous les voisins affluent sans prévenir. La demeure est ouverte à tous. Le sexe, l'âge et le nombre de spectateurs varient en fonction du programme. Cet après-midi du 29 juin 2000, les conditions météorologiques sont favorables. Le ciel est d'un bleu rêvé. La télé ne grésille pas, même si le propriétaire a dû cogner déçu pour la mettre en marche. Les yeux posés sur elle ont la fraîcheur de l'innocence, des jeunes à la fleur de l'âge, au corps sculpté par de longues années passées à courir derrière les boules de chiffon, puis des ballons inespérés se meuvent, se compactent et laissent déferler sur leur front lisse un surplus d'énergie liquéfiée. Un surplus d'énergie liquéfiée. Le regard aigu et l'île lance des pronostics. L'un d'eux reste muet, concentré sur les images. Et voilà, le buste projeté vers l'écran, son regard se faufile entre les bêtes, les mâchoires serrées, seuls quelques mouvements désordonnés qui lui échappent disent la passion qui l'habite. Au premier tacle de Maldini, spontanément, son pied soulève l'arrière-train du garçon accroupi devant lui. La victime se retourne furieuse, mais voyant le visage abordé et de l'auteur du coup, n'escompte aucune excuse et se réinstalle un peu plus loin. On ne piétine pas quoi ? On ne piétine pas deux fois les couilles d'un aveugle, dit-on. Une fois suffit pour qu'il soulève sa marchandise dès que des bruits de pas lui parviennent. Le garçon n'avait quoi? N'avait n'avait qu'à ôter ses fesses de là, car le match ne faisait que commencer et des actions existantes, il y en aurait d'autres, il y en aurait encore. Déjà, la fougue poussant au harakiri, carton rouge dédaigné contre Zambotta, le numéro 17 italien. Là, c'en est trop pour le jeune homme. Aussi désemparé que dinosaure, l'entraîneur italien, il se redresse et grommelle quelque chose qui n'aurait pas fait plaisir à l'arbitre. Vous l'aurez compris, ce jeune homme est un supporter de l'équilibre de l'équipe italienne et je vous interdis désormais de supporter une autre équipe par respect pour lui. Le sort s'acharne, carton jaune contre Francesco Toldo, le goal italien qui vient d'attraper le numéro 9 des Pays-Bas. Le jeune homme se lève, serre sa tête entre ses mains, en attendant la sanction qu'il connaît d'avance et qui ne tarde pas à s'abattre, et pénalité contre l'Italie. Mon Dieu, faites quelque chose que j'arrête de crier, non, mais vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas grave, en tout cas, mais bien sûr que c'est grave. Oui, je sais, ce n'est pas quoi, ce n'est pas Hiroshima sur l'Italie. Si ce n'était que cela, je m'en moquerais, ben là, il risque de prendre, quoi, un but qui va briser le cœur de Madikré. C'est qui Madikré? Madiké, il faut dire. C'est le nom de la personne, quoi. Oui, mais c'est qui Madiké? Je peux, c'est qui Madiké? Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer, moi. Un penalty, ce n'est pas une pause café. Ça part aussi vite qu'un paire de footballeurs. Bon alors, vous allez vous remuer, oui. Et les prières? Et le ramadan? Vous croyez que je fais tout cela pour rien, moi? Ah, Toldo, le gardien italien, sort de le ballon. Madiké lance un violent coup de pied qui, cette fois, ne dérange personne. Pouf! On a éviter le pire. Une longue inspiration soulève sa poitrine, il se rassied. Et puis le visage illuminé par un sourire que je sais éphémère. Le match continue. À chaque faute des Italiens, il adopte une position religieuse. Juste avant la mi-temps, Maldini conteste les décisions de l'arbitre et se voit offrir un carton jaune en guise de goûter. Le sourire de Madiké s'efface. Il sait qu'un deuxième carton jaune équivaudrait à un rouge et éjecterait son idole du terrain. Inquiet, il écrase sa tête entre ses paumes. Il ne voudrait pas voir son héros condamné au banc de touche. Il voudrait lui parler afin qu'il réalise les actions qu'il imagine et les tactiques qu'il échafaude assis sur son banc. Il voudrait même, à défaut de jouer et à ses côtés, lui prêter ses jambes afin qu'il en fasse sa paire de rechange. Mais là, sur ce banc, les pieds enfoncés dans un sable blanc et brûlant, combien de kilomètres de rêve le séparent des traces de boue que Maldini laisserait au vestiaire à la mi-temps? Eh bien, transformant son désespoir en interlocuteur, il hurle, dit quoi, des phrases qui restent suspendues à la cime de cocotier de Nio d'Or. Il faut répéter de Nio d'Or. Il ne parviendra jamais aux oreilles de Maldini. Dévoué, je suis sa messagère. Madiké et moi avons la même mère. Ceux qui savent aimer à 50% vous diront que c'est mon demi-frère. Mais pour moi, c'est mon frère, tout simplement. C'est mon petit frère, tout simplement. Alors, dites à Maldini que ces cartons jaunes ou rouges sont trop lourds et m'écartent le cœur. dites-lui d'épargner et sa peau, de garder ses côtes intactes, de ne pas recevoir de ballons sur le nez, de ne pas livrer ses jambes aussi de l'adversaire. Dites-lui que mes gémissements sont au nombre des coups qu'il reçoit. Dites-lui donc que son souffle ardent me déchire les poumons. Dites-lui que je souffre de ses plaies et en porte les stigmates. Dites-lui surtout que je l'ai vu à Néodior courir sur le sable chaud derrière une bulle de rêve. Car un jour, sur un terrain vague, mon frère est devenu Maldini. Alors, dites à Maldini son corps de lutteur, ses yeux noirs, ses cheveux crépus, son beau sourire et ses dents blanches. Ce Maldini-là, c'est mon petit frère englouti par son rêve. L'arbitre siffle la mi-temps. Les jeunes spectateurs se dirigent vers l'arbre en face de la maison, l'histoire de se dégourdir les jambes, mais aussi pour discuter plus bruyamment, sans déranger leur hôte. Seul Madike reste au seuil de la maison. Pour rien au monde, il ne raterait la reprise. À la télé, plus rien que de la publicité. Coca-Cola, sans gêne, vient gonfler son gifle d'affaires jusque dans ces contrées où l'eau potable reste un luxe. Surtout, n'ayez aussi crainte, le coca fera pousser le blé dans le sable. Attiré par la télé, une troupe de gamins rachitiques âgés de 7 à 10 ans, avec pour unique jouet des bouts de bois et des boîtes de conserve ramassées dans la rue, s'éclaffent en voyant la scène suggestive de la publicité. Un garçon s'approche d'un groupe de filles qui semble l'ignorer. Il offre alors un coca à la plus belle et l'invite. Celle-ci, après une gorgée rafraîchissante, offre généreusement sa taille au garçon qui l'enlace et ils partent, quoi, ensemble en se souriant. Les enfants éclatent de rire. L'un d'eux demande à son voisin qu'est-ce qu'il va lui faire, hein? Les autres ricanent. Celui qui parle le meneur de la troupe répond en tout en lui donnant un coup de coude. T'es idiot ou quoi? Il va la niquer. Conforté par son leader, un autre gamin poursuit. Il y aura un bal derrière chez moi. J'ai vu mon grand frère et ses amis apporter des caisses de coca. Elles vont voir les filles. Ce qu'ils vont leur mettre, les rires repartent de plus belle. Ensuite, c'est au tour de Miko d'aiguiser leur appétit. Une énorme cône de glace aux couleurs chatoyantes remplit l'écran, puis un enfant bien potelé apparaît léchant goulûment une place démesurée. Des ronronnements d'envie remplacent les insanités de tantôt. Hum, 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 hum. Ha, ham, ha. C'est bon, hum, font-ils de concert. Et puis, n'a font capella, puis n'a pas retourné à l'air, pas bien, ou à coûter en bâtonnel la caille. Nous vivons, nous, grâce à WMFO 91,5 FM. Et n'a prend texte nous prend il sortit dans le ventre de l'Atlantique, nous fait une première moitié dans et chapitre 1 an, c'est Fatou Diom, c'est un française sénégalaise et qui écrit un pile bagage sur l'immigration et donc l'habiter dans le pays la France, donc livre ça était pas en 2001 et me tomber sur lui pendant m'a appelé là, donc m'a dit bam li pour nous m'a appelé chapitre le ventre de l'Atlantique. Donc on aurait été là n'a brûlé et Tropicana pour l'aider nous mener comme sucre et nous mais
si on
na fon bel bel mame Che di se ou la fè Je di a na fon bel fè Pou di tou se jou sa wane dan Pou fite avek chou Che di se ou la fè Je di a na fon bel fè Me jou la fè Je di a na fon bel fè Che di se ou la fè
Pabli e la koute An batonel la kay Li vin jwen nou chak dimanche Ape 6h jout 8h du soir E pi den vwam nan Tupikana Nan yon chante aniversèr C'est un bâtonnet la carrière qui vient nous chaque dimanche dérapé qui est 6h, jour 8h du soir. Et nous dit au mois prochain pour faire émission 35 écoles café. Oui, il y a dans tête, mes amis. Et donc, enfin, pas de rame. Donc, on a continué avec un et pour chapitre 1. Dans le ventre de l'Atlantique par Fatou Diom. Fatou Diom, encore lycéen sénégalaise et en française. Et en tout cas, il écrit en pile causé sous question immigration. Il penché sous cause ça. Donc, les glaces, ses enfants et n'en connaissent pas, en tout cas. Comment nous disons les glaces, ces enfants n'en connaissent que les images. Il reste pour eux une nourriture virtuelle, consommée uniquement là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce paradis où ce petit char nu de la publicité a eu la bonne idée de naître. Pourtant, ils y tiennent à cette glace et, pour elle, ils ont mémorisé les horreurs de la publicité. Miko, ce mot, le chante, le répète, comme les croyants salmodient leur livre saint. Cette glace, ils l'espèrent, comme les croient les musulmans, le paradis de Mahomet, et viennent l'attendre ici. Comme les chrétiens attendent le retour du Christ, ce cône de Miko, ils lui ont quoi trouver des icônes. Ils sont grossièrement taillés des bouts de bois, les ont peints à la croix, à la craie rouge et jaune pour représenter les glaces appétissantes. Ce sont des bouts de bois qu'ils reniflent en savourant la publicité. Pour ces enfants, je rêve d'une piscine de Miko bâtie au nom du plaisir et non du chiffre d'affaires. Cette glace, ils rêvent de la gober plutôt, comme Madiké rêve de serrer la main de Maldini. La publicité tire à sa fin. Les jeunes qui poursuivaient leurs pronostics sous l'arbre reviennent s'attrouper devant la télévision et renvoient les gamins. trop bruyant à leur goût. Ici, on ne badine pas avec le droit d'aînesse. Un vieux pêcheur encore robuste en ayant vient s'installer confortablement devant ma diquet. Celui-ci l'identifie à l'odeur de poisson qui lui envahit les narines et puis tous les chaleurs, les salutations plutôt sont polies mais brèves. Cette odeur est fétide mais le respect, ça vous cloue le bec. Madiqué reste quoi? Il sait qu'ici, les dizaines d'années d'accumuler sans quoi sont autant d'atouts qui excusent tout. Il lui faudra supporter ce fossile en putréfaction pendant toute la seconde mi-temps. Alors, il se croit, il se concentre et s'imagine là-bas, loin du vieux pêcheur, là où se joue le match. Le stade réapparaît, les joueurs ne sont pas encore sortis des vestiaires, mais les reporters s'échauffent déjà la gorge avec des phrases où reviennent souvent le nom de Maldini. Que disent-ils de lui ? Se demande Madiqué. Il tend l'oreille, pas facile d'entendre avec ses voisins qui commentent comme des sélectionneurs de revol. Il se rapproche de l'écran qui palpite, met la main derrière l'oreille, comme pour mieux s'isoler du groupe, et écoute encore. La voix des reporters est un peu plus audible, mais le langage qu'ils utilisent survole ses oreilles sans s'y infiltrer, vraiment. Ah, c'est agaçant! Et puis, cette odeur de plus en plus forte, seul le nom de Maldini lui parvient clairement à intervalles irréguliers. Mais bon sang de bon Dieu, de trou de balle, que disent-ils de lui? Cette langue, il l'a souvent entendue, et même vue. Oui, il l'a vue. Chez lui, cette langue porte des pantalons, des costumes, des cravates, des chaussures fermées, ou alors des jupes, des tailleurs, des lunettes de hauts talons. Oui, il reconnaît cette langue qui fait la musique des bureaux sénégalais, mais il ne la comprend pas et ça l'irrite. Le match recommence. Le premier coup franc est en faveur des Italiens. Madiqué se délecte. Il se sent ressaisi, pense-t-il, et ça le rassure. Mais son optimisme est vite démenti. Les Hollandais tiennent à leur bonheur, et à leur honneur plutôt. Et puis, ils défendent leur but comme une nonne, et sa foufounette. Les Italiens, eux, doivent faire avec la guerre. C'est comme on dit plutôt, ils défendent leur but comme une nonne, sa foufounette. Les Italiens, pas vrai, doivent faire avec. La guerre sublimée sur la pelouse nécessite des nerfs solides et ce n'est pas facile de quoi. Ce n'est pas facile de les garder intacts pendant 90 minutes, surtout durant ces derniers instants du match où toutes les actions sont déterminantes. Madiqué transpire, il fait chaud et puis cette odeur de poisson commence à lui soulever le cœur. L'arbitre siffle la fin de la durée réglementaire. Les combattants devront attendre les prolongations pour en découdre. D'ailleurs, même si leur désir de gloire les maintient debout, leur mine dévastée implore le repos comme une mère protectrice. Une mère protectrice, comme une sœur attendrie, comme une épouse dévouée, je voulais leur donner à boire, leur éponger le visage, panser leurs blessures et les calogés. Je voulais leur dire que leur match, au score insatisfaisant, ressemble à la vie. Les meilleurs buts sont toujours ceux et à venir. Seulement, il est pénible de les attendre. couvert de boue et de dégoulinant de cœur, les joues regagnent les vestiaires, les épaules basses, écrasées par tant d'efforts infructueux. Repos avant les prolongations, le groupe des jeunes spectateurs demeurés devant la télévision s'anime. Le match est encore est en train de démentir leurs pronostics. Les plus nerveux tiennent à faire valoir leur opinion en gesticulant. La musique de la publicité retentit. Les gamins de tantôt assurent le vieux pêcheur. Pour meubler la pause, cherche une discussion. Avec un sourire taquin, il tape Madiké sur l'épaule et dit, en se disant la barbe, Hey, Maldini, que se passe-t-il? Tu n'assures pas aujourd'hui, hein? Tes adversaires sont vraiment de taille. Maldiké lève les yeux sur l'homme avant de pointer son regard vers l'horizon en crépusculaire. Le silence a quelque chose de désarmant, le savoir aussi. Inspiré, le vieux ne se laisse pas démonter. Se faisant docte, il se lisse encore la barbe et proclame une pensée qu'il vient de faire sienne. Sais-tu, Maldini, que la grandeur des obstacles franchis rend la réussite plus éblouissante? La qualité de la victoire se mesure à la valeur de l'adversaire. Battre un poltron ne fera jamais d'un homme un héros. Ces élucubrations ne soulagent guère. Madiké, il connaît cette philosophie. Hein? Il connaît cette philosophie de dinosaure, ce verbiage exotique mille fois falsifié que les Occidentaux nous collent à la peau pour mieux nous mettre à part. La casquette de tous ces proverbes improvisés, le vieux pêcheur ne savait-il pas inversement que perdre devant un adversaire et courageux n'a jamais fait d'un homme un héros non plus? Le soleil semblait fuir les interrogations des humains et menaçait de s'abîmer dans l'Atlantique. Le ciel, embrasé par les passions, paraissait plus bas que d'habitude, laissant pendre une traîne de lumière rousse qui couvrait la cime des cocotiers. Mais miséricordieuse, la brise marine presque imperceptible effleurait la peau. Seules quelques femmes en retard dans leurs tâches ménagères, revenant des puits, remarquaient ce léger vent du crépuscule qui s'engouffrait sous leurs pagnes pour les caresser là où le soleil jamais ne pose son regard. C'était aussi des femmes dévouées comme celles-là qui osaient perturber le calme naissant du village de leur dernier coup de pilon. Pong, pong, racasse, racasse, pong, pong, racasse, camasse, pong, ces coups de pilon répétitifs et lointains résonnaient au plus profond du cœur de Madiké. Pour les avoir entendus toute sa vie, il les reconnaît, les décode d'eux-mêmes. Il précède toujours l'appel du muezzin et le chant des hiboux. Ils sont devenus pour tous les insulaires la musique annonciatrice de la nuit. Mais dans cet univers de superstition, il sonne aussi l'heure des esprits maléfiques et les glissements dans les ténèbres des peurs ancestrales. Lorsque petit, il entendait ses coups de pilon, Madiké, à l'instar de ses camarades, quittait les terrains de jeu improvisés et courait rejoindre notre mère. Il savait exactement où la trouver à cette heure. Elle était toujours dans sa cuisine au fond de l'arrière-cour, occupée à surveiller la cuisson du dîner ou à piler une poêle panier de mille pour la quoi, pour la bouillie au feu, les cahiers du lendemain. Si par un malencontre ou hasard, il ne la trouvait pas, évitant l'angoisse des ombres rampantes du dehors, il prenait son petit banc et s'installait dans la cuisine face au feu. Impatient, il trompait l'ennui en alimentant le feu de bois et s'émerveillait devant la danse des flammes jusqu'à ce qu'une voix faussement autoritaire lui parvienne. Hey, arrête, m'a dit que, quel brasier tu me fais là? Tu vas me brûler le dîner. Le temps avait passé, l'atmosphère sournoise du crépuscule le poussait toujours en quête des jupes, et rassurante, mais plus celle de sa mère. D'ailleurs, ce 29 juin 2000, la plus belle des naïades n'aurait su capter son regard. Le rideau fantasmagorique de la publicité se déchire, les gamins se dispersent avec les dernières notes de leurs chansons favorites. Miko, Miko, la cour plongée dans le noir ressemble à un cimetière marin. Seul le faisceau bleuté qui émane de la vieille télévision éclaire faiblement le visage des spectateurs. Le silence est propre en recueillement. Le musain plutôt se fend la gorge pour rien. Il n'aura qu'à boire un thé à la menthe après, ça lui ferait du bien. Le stade réapparaît, les fidèles acclament leur dieu. Le vieux pêcheur se racle bruyamment la gorge, secoue le bras de son voisin et annonce sur le ton de la confidence: Maldini, mon petit, c'est maintenant l'heure de vérité. Madiqué esquisse un sourire de circonstance avant de retirer son bras, agacé par l'action de Jaap Stam, un joueur hollandais. Carton rouge, hurle-t-il. Mais l'arbitre se contente du jaune. Merde, il mérite un carton rouge. Cet arbitre est un vrai. Eh bien, phrase sans point final. Personne ne sait tout. S'arrête de la colère. Les Hollandais regardent droit devant eux. Ils sont de plus en plus entreprenants. Aaron Winter tient à faire valoir son opinion et obtient un corner. 84 sélections, ça vous donne de l'expérience, surtout pour la triche. Seedorf se croit à droit et à court pour tirer le corner. Delvec Chio se précipite et prouve à la Samet que son lait n'était pas inutile, c'est sûr. Elle a allaité un héros capable de restituer son souffle à toute la nation italienne. Mais les mères hollandaises en ont fait autant. Et leurs fils, qui tiennent à les rendre fiers, remontent à l'attaque. En Cannavaro dresse un barrage et dégage. Maldini engage un sprint. Madike décolle de son banc et se voit derrière lui. Allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y, crie-t-il à se rompre les cordes vocales. Everything you want, you've got it. Un cousin des États-Unis refoulé et n'arrêtait pas d'écouter cette chanson et la traduisait à qui voulait l'entendre. Quand on veut, on peut. Madike commence à avoir des doutes, à juste titre d'ailleurs. Les deux périodes de prolongation restent stériles. La série de tirs au but est désormais inévitable. Madike le sait dans sa poitrine, son cœur bat la chamade. Il pose la main dessus, mais rien à faire. Son palpitant s'active de plus belle. La maîtresse de maison appelle au dîner. Ici, le repas n'est pas réservé aux seuls habitants de la demeure. tous ceux qui sont là au moment du service y ont droit et se voient naturellement conviés à le partager. Une jeune fille apporte une petite calebasse remplie d'eau où l'on se lave les mains à tour de rôle pendant que sa mère dispose une série de bols fumants au milieu de la cour. Le vieux pêcheur se rince sommairement la pelle et sans se faire prier rejoint le chef de famille tout en discutant de la mauvaise pêche des derniers jours. Et il s'installe en tailleur sur une natte et commence à honorer l'œuvre de la ménagère. Un tatalé fleurant bon les espices et un vrai mets royal, c'est sûr. Il n'y a que les femmes de chez nous pour réussir un aussi délicieux couscous au poisson. Madiqué, lui, à l'estomac noué, il prétexte un déjeuner tardif pour décliner poliment l'invitation. En outre, contrairement à l'ancienne génération, il trouve gênant de partager le repas d'autrui au hasard des circonstances. Sans ce match qui traîne en longueur, il se serait débrouillé pour partir avant l'heure du dîner. Alors que certains enchaînent les bouchées de couscous et complimentent la cuisinière pour justifier leur gourmandise, ils savourent le calme qui s'est créé devant la télévision. Super, se dit-il intérieurement, je pourrais suivre la série de tirs au but en paix. Mais la météo en décida autrement. À peine termina-t-il sa phrase, qu'une série d'éclairs déchira le ciel. Une violente tornade mit les branches de cocotiers en vrille. Le sable blanc qui fait la fierté des insulaires devint leur pire ennemi. Un tourbillon leur flagella dans la peau et emportant tout sur son passage. Ceux qui dînaient quittèrent promptement les nattes qui allèrent se tapir contre la clôture à défaut de tournoyer au-dessus de leur tête. Puis, de grosses gouttes se mirent à tomber. L'une de ces premières pluies de juin, souvent brève mais surtout imprévisible et qui annonce aux sahéliens le début de l'hivernage et des travaux champêtres. Madiqué n'avait pas attendu les premières gouttes d'eau pour saisir le vieil appareil et l'emporter au salon, mais c'était peine perdue. Dès les premiers éclairs, la télé avait clignoté, puis émanant un dernier bip, s'était brutalement éteinte. Il ne voulait pas penser au pire, ce bip n'était pas un dernier soupir, cette télé ne pouvait avoir rendu l'âme. Il se dit que c'était un caprice électrique, juste un choc, une sorte d'attaque cardiaque provoquée par la violence des éclairs. Dans le salon, il tenta seul une longue réanimation sans succès. Il lui fallut le verdict du propriétaire pour se décider à quitter le chevet de la malade. Mais je crois qu'elle est morte. Il n'y a rien à faire. Elle n'a jamais aimé la saison de pluie. L'année dernière aussi, elle m'a lâché dès le premier coup de tonnerre. Heureusement, j'ai réussi à la faire repartir. Pour le coup, je crois que c'est fini. La main posée sur la télévision, l'homme palabrait en souriant. Jetant un coup d'œil sur la pendule du salon, Madiqué réalisa avec amertume que la série de tirs au but aussi était finie. Il annonna quelques politesses et prit congé. Pablié n'a pas suivi en bâtonnel la caille. Nous venons chaque dimanche déraper 6h, 8h du soir. Et c'est grâce à WMFO Medford, 91,5 FM stéréo. Et c'est depuis Medford, depuis 35 ans. Mois prochain, on peut le faire et en bâtonnel la gagne 35 écoles de café sous tête. Eh bien, c'est ça. et c'est notre deuxième tranche à nous, jeudi dimanche là, ça veut dire, et nous était quelques bonnes minutes encore pour nous passer ensemble, et naturellement, le chapitre, et nous fait que Lila, qui ça s'est introduit, fait nous connaître le personnage là, qui est de Madike, et Madike, ça me dit son monde qui est intéressant, c'est le même qui parle le personnage principal là, et puis nous dit que son livre qui est écrit, c'est en africaine, et en Europe, il y a le Fatou Diome, ou bien Fatou Diome plutôt. Fatou, c'est F-A-T-O-U, et puis Diome, écrit D-I-O-M-E. Et puis, soit entendu à l'Iséon français sénégalaise, il était fait dans l'année 68, yo. Et puis, livre ça m'a plié, il était fait aussi dans l'année 2001. Il écrit en pile causé sous question immigration. Et il dit qu'il habite en France actuellement, dans Strasbourg, en tout cas, en France, dans le pays de la France. Et c'est là qu'il écrit plusieurs autres livres. Il m'a bien chance pour nous lire l'autre pour nous tous, parce que il y a, par exemple, il y a un livre qui est qui ça encore, il est La Préférence Nationale. Son édition en présence africaine, qui était prête en 2001, et puis lui écrit Ketala, qui peut être la gare Flammarion, dans l'année 2006, et puis lui écrit Inassouvi nos vies. Inassouvi nos vies, lui écrit Ka Flammarion, tout en 2008. Et puis tout lui écrit Le Vieil Homme sur la barque, et Naïve, 2010, hein, il était écrit ça, Le Vieil Homme. Sur la barque naïve, celle qui attendent année 2010, hein, et puis il fait Mauve Auto 2010, hein, et puis il y a dessin avec photographie de Tima, et puis il y a Impossible de grandir 2013, et puis en tout cas il y a Marianne Porte Plainte qui peut être en 2017. Donc, son monde qui gagne, ils ont bonne cause dans Jacotli. Et nous, Jean, la, décrit, fait description, personnage, et on sait le causement comme ça. Donc, nous t'a souhaité qu'on songe Madike, personnage Madike qui n'a histoire ça là, et n'a pas rencontré le plus devant dans l'autre chapitre, d'accord? Parce que nous pensons pour deux, trois chapitres dans le livre ça. Donc, nous, dans la deuxième heure, et des deuxième tranche, la deuxième tranche en bâtonnet de la caille. Et c'est grâce à WMFO, 91,5 FM Sirio, nous venons, c'est chaque dimanche, il est à 6h, jour 8h. Et nous avons 35 minutes de café sous tête. Non, et puis nous n'avons du tout pas oublié, même si ou est toute bagarre, ça a fait la malgré toute apparence. Nous n'avons mis en Covid, nous continuons pour faire attention, prendre mesure pour pas gagner, et quand nous avons mesure habituelle pour nous, laver mais nous, pas vrai, bam nous distance, et puis encore, et le aller pour qui côté c'est foule etc et allant foule dans boutique yo prend ça yo et puis mieux dit même sous prend vaccin ou besoin continuer quand même à suivre et mesure de prendre avant yo pour protéger donc comme nous même tout on connaît grand pile monde qui prend bon petit gingembre yo prend bon petit girofle yo manger qui c'est encore zonyon toute qualité bail que nous fait qui permet nous et bouler en bas pandémie hein, donc nous en bâtonnel là dit nous pour nous faire toute bail ça oui parce que rien pas qu'à remplacer et c'est bail grand monde la caillou et nous capable utiliser maintenant pas ici tout mais quand même et pas oublier donc n'a pas avec vous jour 8h du soir et nous la deuxième tranche là bon moi si trop picana quand une surprise et nous et puis pour nous dire avant et pour peut-être faire un résumé un sorte de récapitulation pour nous dans premier tranche là nous t'avons mot quoi nous t'ai chita sur deux mots oui nous t'ai chita sur après nous t'ai pour avant nous t'ai pour maman nous t'ai pour maman deuxième et puis après nous t'ai pour manger et nous t'ai par exemple deux mots ça yo je en pile en milieu yo parle dans différents aspects dans la langue là manger gagne le son nom gagne le son tout c'est un verbe. Et nous dit maman, cap vu on sait de rôle exclamation quand ça livre dit ça nous connaît hein, maman et maman avec maman etc. Donc mot ça il joue on sait de rôle et nous dit rôle le conduit de l'heure et à cause de richesse langue il y a comme des plusieurs fonctions. Donc c'est ça que l'on rencontre l'entendre l'on appelle pour qu'à connait dans qui fonction que mon a metté. Et nous dit que l'on a besoin pour connait nom, il connait adjectif, il connait verbe. même si vous connaissez déjà, vous avez besoin de l'eau pour l'eau sur papier pour connaître, pour connaître conjonction, pour connaître préposition, pour connaître adverbe, pour connaître verbe, pour connaître exclamation, et puis pour connaître qui article ou bien déterminant. Vous êtes tout capable de vous comprendre ça. Et puis l'autre des mots, gain de mots c'est le contraire de l'autre. Gain de mots c'est synonyme l'autre. Gain de mots c'est allomorphe. Ou songez nous dit allomorphe là c'est variété qui gain dans prononciation ben on écrit un mot. Et puis gain de mots tout c'est synonyme hein ou bien homonyme l'autre. Donc tout ça yo c'est un paquet de termes qui peut être dans grammaire utilisé mais c'est bagarre qu'on connaît déjà c'est simplement ou pas l'habitude avec définition. Sous qu'on est dans l'autre langue c'est encore plus en forme. Donc encore une fois, n'a demandé Tropicana pour lui venir et maison bouchon pour nous la causer à et puis n'a dit on a bon rendez-vous semaine prochaine. C'est fait tout chéri, c'est ça, chanter à relais. Nous dit encore la bonne aujourd'hui du soir avancer pour nous la conclusion hein? Nous espérons avec nous semaine prochaine en tout cas. Chaque dimanche. Ah ouais. Dérapé 6h. Jour 8h du soir. Tropicana, merci. Ah ouais.
Due to COVID-19, WMFO DJs are pre-recording their shows for broadcast on air. We can still accept phone calls, but the phone line is in voicemail mode. Call 855-915-9636 and be sure to leave the DJ's name in the voicemail so we can forward it to the correct person. The following program was recorded earlier. Enjoy.